France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Les pétarades des mobylettes aux pots d'échappement percés ont disparu de notre environnement sonore. Les véhicules électriques ont permis de baisser le volume dans nos villes. Des décibels en moins d'un côté, mais des décibels en plus de l'autre, car le bruit est partout, tout le temps, dans les magasins, au bureau, au resto. Une bouillie auditive alimentée de notifications sur nos portables et autres sollicitations permanentes pour nos esgourdes qui n'ont rien demandé. Dans ce monde si bruyant, comment et où retrouver le chemin du silence? Un silence si rare qu'il en devient un luxe. Et vous, quel est votre rapport au bruit et au calme? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels, vos notes vocales sur la application de Radio France, et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le mardi 8 juillet, vous écoutez France Inter, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Eva Rock.
Mais c'est quand même inattendu, hein. Ce nouveau voisin qui écoute de la salsa à longueur de journée.
Surtout à l'heure du déjeuner.
Bah oui. C'est l'heure où on est dans le jardin.
T'as le droit d'écouter de la musique en déjeunant. C'est beau ce silence. D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien.
C'est magique.
Scandale ! Tu laisses pas tranquille, ça suffit !
Magique.
C'était un extrait du film Hors temps d'Olivia Sayas et qui pose beaucoup de questions quant à notre rapport au bruit que nous allons évoquer avec nos trois invités ce matin. Bonjour Stéphanie Baudet.
Bonjour.
Autrice, vous avez été championne d'escalade dans une autre vie, enfin vous continuez à grimper de toute façon et à écrire en parallèle. Votre dernier livre, À l'écoute du silence, est publié aux éditions de l'Équateur et c'est un récit absolument merveilleux, une ode à la nature dont nous allons parler ce matin. Bonjour Grégoire Borst.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Vous êtes également directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et puis vous allez essayer de nous aider à comprendre comment notre cerveau réagit face au bruit et face au silence. Et bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Eva.
Très heureuse de vous retrouver dans ce studio. Les fidèles de Grand Bien vous fassent vous connaissent grâce à votre chronique, la philosophie appliquée au quotidien. J'aimerais qu'on commence par une petite expérience, si vous me le permettez, avec vous Grégoire et avec vous Thibaut. Grégoire, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez éprouvé un silence ?
Je ne crois pas. Je pense que ça devait être dans la nature, parce que c'est paradoxal, parce qu'en fait, il n'y a pas de silence dans la nature. Il y a toujours du bruit. Mais il y a un silence relatif par rapport au bruit, je dirais, de la société et du monde qui nous entoure, et notamment en partie du monde numérique, en tout cas. Donc, je pense que ça devait être à la mer.
À la mer.
Ouais.
Et vous, Thibaut ?
Moi, je ne dors pas très bien et donc il m'arrive fréquemment d'avoir des insomnies. Et je pense que la dernière fois que j'ai fait cette expérience, c'est vraiment cœur de la nuit, entre, je sais pas, 2 et 4 heures du matin. Et alors, tout n'est pas toujours calme la nuit, évidemment, chez soi. Mais là, il se trouve que vraiment, c'était assez calme. Suffisamment en tout cas pour que je m'en rende compte, il y avait effectivement pas ces petits bruits du quotidien, même je sais pas un frigidaire qui se remet en route ou voilà. Non, là c'était vraiment voilà, cœur de la nuit.
Et est-ce que c'est des moments que vous recherchez ?
Pas particulièrement parce que enfin on va en parler mais il y a peut-être différentes manières de se reposer du bruit et par exemple, moi je sais que parfois, souvent, dans des atmosphères très bruyantes, ou quand j'enseignais par exemple au lycée et que j'avais une journée avec les bruits de couloirs, les élèves partout, etc., ce qui me reposait n'était pas tellement le calme, mais par exemple de la musique. Entre guillemets, une sorte de bruit harmonieux.
Et vous concentrez sur ce moment-là,
voilà,
en fait.
Voilà, une musique, effectivement, alors peut-être pas une musique excitée, quoique, mais. On peut, je pense, enfin, je suis pas spécialiste du sujet, mais on peut peut-être se reposer du bruit autrement que juste par le silence.
Qu'est-ce que vous en pensez, Grégoire Borst ?
Mais c'est souvent ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que quand on est dans des environnements très bruyants et qu'on a besoin de se concentrer, une façon, c'est de s'isoler, notamment par la musique. Mais ce qui est quand même intéressant à avoir en tête, c'est que même la musique, ça crée une distorsion d'une certaine manière de notre capacité à apprendre et à mémoriser. Alors ouais. ça paraît paradoxal, mais en fait le simple bruit, et même un bruit mélodieux comme peut l'être la musique, produit une interférence suffisante d'une certaine manière pour moins bien apprendre et pour moins bien mémoriser. Donc c'est tout le paradoxe finalement de ces sociétés où on rajoute du bruit au bruit d'une certaine manière pour s'isoler du bruit.
Ouais, on va reparler évidemment des conséquences sur notre cerveau. Stéphanie Baudet, vous, ce silence, vous le cherchez, vous le recherchez, vous le traquez presque, et vous nous le faites partager, surtout grâce à ce livre. Je vous propose une autre expérience, parce que vous le faites très bien dans le livre. Je voudrais que vous nous emmeniez dans cette montagne que vous connaissez si bien, alors en Ariège notamment, parce que c'est au cœur de votre récit. Vous qui êtes une hypersensible, est-ce que vous pourriez nous décrire cette nature, mais en utilisant, avant votre oui, uniquement votre toucher? Qu'est-ce que vous touchez dans cette nature? Ça ressemble à quoi?
Alors c'est vrai qu'il y a une expérience sensorielle, je pense, dans cette nature, et ça ressemble à la capacité peut-être même de toucher un arbre, de ressentir la rugosité de l'écorce, peut-être parfois, alors pour moi le toucher va aussi étrangement avec l'odorat,
ouais.
Mais être capable comme ça d'apprécier le parfum, mais ça peut aussi être en ville. Voilà, j'étais ce matin pas loin dans mon hôtel, et puis je regardais des pigeons par exemple se faire la cour, et je trouvais ça merveilleux, ou alors la pluie qui se met à tomber, puis l'atmosphère qui change, vous sentez cette espèce d'humidité qui envahit la ville d'un seul coup. Et en fait, le peu d'arbres qu'il y a dans le secteur où j'étais prenait une vie assez incroyable. On ouais. ressent un foisonnement, une vie qui est là, une vitalité. Et ça, on peut s'en nourrir, je pense, même au-delà d'un séjour en montagne comme je peux le vivre. Et moi, j'y suis d'autant plus sensible en ville où je repère finalement qu'il y a de la vie partout.
Oui, vous avez vraiment une forme d'hypersensibilité à cela. Est-ce que quand vous êtes dans cette montagne, là, en Ariège, qu'est-ce que perçoivent vos oreilles, en fait? Quels sont les sons qui vous arrivent tout de suite?
Eh bien, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est pas du tout le silence, en fait. Tel que ma définition de silence, c'est au contraire, c'est pas un silence mort, c'est un silence habité, c'est un silence vivant. C'est le doux bruissement du monde, en fait, qui se fait entendre lorsque l'homme, ou lorsqu'on se met en retrait et qu'on se rend disponible pour écouter. Et voilà, donc, moi, c'est tout ça. J'entendais le pic noir, par exemple, le martèlement du pic, le chant du torrent en bas dans la vallée. J'étais sensible aux mésanges, parce que j'aime beaucoup les mésanges, j'en ai beaucoup chez moi. Et là, dans cette petite cabane à flanc de montagne, en fait, on se rend compte que même dans la plus grande solitude, dans le plus grand isolement physique, on est vraiment relié à tout ce qui nous entoure. Et je pense que quand on a la capacité comme ça à se sentir, à se mettre à l'écoute, on se sent jamais seul.
Ça veut dire que plutôt que de silence, il faudrait parler d'un calme intérieur que vous recherchez dans ces montagnes.
En tout cas, je pense que la possibilité de se retirer par moment du bruit nous permet de retrouver de l'espace en soi. Et ce silence intérieur, pour certains, passe par la possibilité de prendre un temps de respiration, de recul. Et en fait, je pense qu'on a tous cet espace de paix en nous qu'il suffit parfois de pouvoir rejoindre. Et on est parfois tellement fatigué par le bruit, tellement sollicité, qu'on se souvient même plus qu'il existe, en fait. Et à nouveau, quand on retrouve cette possibilité d'ouverture, on se sent bien plus disposé aussi envers les autres et plus à l'écoute envers nos proches et autres. Donc, c'est pas du tout, pour moi, un mouvement d'égoïsme ou d'individualisme,
mais au contraire. C'est presque une expérience collective que vous prenez, en fait, à travers cette recherche du silence.
Exactement. Je pense qu'on n'est plus. Je pense qu'une grande partie de la violence de notre société vient du manque de silence, du manque d'espace. Et que quand on retrouve la possibilité de respirer, de redécouvrir notre humanité, on se sent davantage, on est plus bienveillant et tolérant. Enfin, j'ai pu vraiment le voir autour de moi, je le ressens en tout cas. Dans les montagnes, les gens se saluent et
oui.
En ville, c'est plus difficile, c'est plus normal. Compliqué. On est obligé de se retirer dans son techno-cocon, dans le téléphone et autres.
On va y revenir sur cette notion de tolérance aussi, parce que vous avez développé une tolérance à l'égard des tronçonneuses. Vous allez nous raconter pourquoi. Grégoire Borst, en fait, il y a un truc qui paraît assez évident, mais contrairement aux yeux, on ne peut pas fermer nos oreilles si on est indisposé par un trop plein de bruit, en fait.
Alors, on ne peut pas complètement fermer nos oreilles. Par contre, on peut filtrer. Et c'est ça la force du cerveau humain, c'est de pouvoir focaliser son attention sur une information qui nous est pertinente. D'ailleurs, on le voit bien quand on est... C'est une expérience assez connue qui s'appelle l'effet cocktail party. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement dans lequel il y a énormément de gens qui parlent en même temps, vous êtes quand même capable de vous focaliser sur la conversation que vous êtes en train de tenir avec une personne en particulier. Et donc ça, c'est la force du cerveau humain, c'est sa capacité à rester attentif. Mais effectivement, on ne bloque pas l'ensemble des bruits, ça, on n'est pas capable de le faire. Mais c'est vrai du bruit externe, mais c'est aussi vrai du bruit interne. C'est-à-dire que c'est complexe aussi de bloquer complètement ses pensées.
On voit bien que c'est... Est-ce que c'est possible même ?
Ben pas vraiment d'ailleurs, parce que quand on y pense, même dans des gens qui pratiquent la méditation de façon extrêmement, de façon experte, ce qu'ils arrivent à faire, c'est laisser filer les pensées, c'est-à-dire de ne pas se fixer sur une pensée. Mais l'idée de ne penser à rien, j'enjoins tout le monde à essayer de faire ça, c'est strictement impossible. C'est-à-dire instantanément, on commence à réfléchir, on a des associations, c'est la force du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau n'est jamais, d'une certaine manière, il n'est jamais coupé. Il fonctionne en permanence, alors avec des degrés de conscience différenciés. Mais si on vous demande de vous allonger dans une IRM et de ne penser à rien, bon, vous n'y arriverez pas, mais de fermer les yeux, d'être dans un état finalement de repos, vous avez des activités dans tout votre cerveau. Alors c'est une activité oscillatoire avec différents types de réseaux qui sont activés, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui fait émerger finalement la pensée de façon continue.
Et puis je me disais que finalement c'était le battement de notre cœur était le premier son qu'on entendait, qu'on percevait. En tout cas, on voudrait se couper totalement intérieurement et extérieurement, c'est pas possible en fait.
Non, complètement. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de recherches qui visent justement à comprendre la synchronie qu'il peut y avoir entre les rythmes physiologiques de notre corps, type le cœur, mais aussi le rythme respiratoire et l'oscillation cérébrale. Et il y a peut-être des relations entre les deux, ce qui expliquerait d'ailleurs que quand on joue finalement sur un certain nombre de constantes physiologiques, quand vous ressentez du stress, une bonne façon de combattre votre stress, c'est de prendre des grandes respirations pour diminuer votre rythme, votre fréquence respiratoire. Et en fait, ça va envoyer un signal au cerveau et ça va vous permettre de diminuer un peu votre stress. C'est des boucles de renforcement entre le corps et le cerveau.
On va continuer à en parler d'ailleurs du cerveau. Puis Thibaut de Saint-Maurice, vous allez nous dire si la philosophie s'empare de ces concepts de silence et de bruit. On a compris aussi avec vous, Stéphanie Baudet, que l'escalade est une élévation et on perçoit aussi en vous lisant à quel point le silence participe à cette élévation qui n'est pas simplement physique. Pourquoi le bruit est un enjeu de santé publique et modifie notre rapport à la nature aussi, c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Pour l'instant, il est 10h17, vous écoutez France Inter. Avec Françoise Hardy.
Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. Mon cœur de silex vite pour feu, ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes.
Comment te dire adieu, chantait Françoise Hardy en 1968.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Il me semble que le silence est une chose absolument indispensable pour certaines catégories de gens. Ceux qui ont à prendre des décisions et ceux qui ont à créer. S'ils n'ont pas la possibilité de trouver dans une journée un moment de silence au cours duquel ils peuvent penser sans que cette pensée soit biaisée, soit détournée. Leurs décisions peuvent être fausses, en tout cas plus fausses, que s'ils avaient le temps de mûrir ces décisions. Les artistes en ont tellement besoin que, automatiquement, ils prennent le temps de cette pensée dans le silence. Mais les autres responsables, chefs d'industrie, patrons de syndicats, hommes politiques, ceux qui au contraire, devraient faire très attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils décident, ceux-là sont pris dans un tel tourbillon de bruit que je me demande si les décisions qu'ils prennent ne sont pas, elles aussi, biaisées, déformées par ce bruit dans lequel ils vivent continuellement.
La voix de Paul-Émile Victor qui évoque ce bruit qui change le comportement des hommes, c'était en 1973 sur France Culture. Quelles sont les conséquences de ce monde devenu si bruyant? Nous en parlons ce matin avec l'autrice Stéphanie Baudet, le philosophe Thibaut de Saint-Maurice et Grégoire Borst, professeur de psychologie. Petit aparté d'ailleurs, le silence n'existe pas dans ce studio de radio, puisque si nous restons sans parler, au bout de quelques secondes, un disque d'urgence va se déclencher. Voilà, on n'a pas le droit de ne pas parler dans un studio de radio. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut de Saint-Maurice, de ces mots de Paul-Émile Victor, alors qu'il date de 1973, peut-être qu'on s'exprimerait d'une façon différente, mais est-ce que la pratique de la philosophie vous a amené parfois à aller vers le silence, et est-ce que vous avez besoin aussi, en retour, de ce silence pour penser ?
Oui, alors moi, sans doute, oui, à titre personnel, mais parfois c'est aussi difficile, et etc. Mais ce que la philosophie apporte au-delà de mon cas personnel, c'est un ensemble de distinctions, un ensemble de questions même à propos de ce silence. Il y a la question de savoir qu'est-ce qui est en mon pouvoir face au bruit du monde et à l'agitation de mes pensées. Alors face au bruit du monde, j'ai des pouvoirs très limités. Je peux m'éloigner du bruit, aller chercher le calme. Mais il y a du bruit et des agitations que je ne parviendrai pas à faire taire. Ou alors, ça va me demander énormément de moyens et beaucoup d'argent, et c'est là aussi où parfois la recherche du calme, elle confine à un certain luxe, et pour beaucoup d'entre nous, cette question, elle devient aussi une question économique. Et puis il y a une deuxième dimension du calme que la philosophie introduit, d'ailleurs dès son commencement, en tout cas la philosophie occidentale, donc dès son commencement dans la Grèce antique, les fameux philosophes grecs, qui eux pensent plutôt le calme comme une tâche à accomplir à l'intérieur de soi. Le monde est bruyant, les hommes s'agitent, on n'y peut pas grand-chose, ça crie, ça se dispute, ça se bagarre, ça se fait la guerre, bon, très bien. En revanche, ce qui est en mon pouvoir, c'est de maîtriser l'effet que cette agitation extérieure peut avoir sur moi. Alors ça ouvre, en tout cas il y a deux grands courants de philosophie antique qui sont traversés par cette question, qui est le stoïcisme. D'ailleurs dans le langage ordinaire on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, ça veut dire qu'il résiste comme ça aux excitations, sollicitations extérieures. Et puis il y a l'épicurisme aussi, donc la philosophie d'Épicure, alors pour un petit peu d'autres raisons, mais le résultat est à peu près le même. C'est ce que les Grecs appellent l'ataraxie.
Tranquillité de l'âme, en fait.
Exactement, voilà. C'est la capacité. Il ne faut pas le voir comme étant un truc où on est complètement passif, où on ne pense plus à rien, etc. C'est vraiment un travail intérieur, presque, de chaque instant, que de construire cette tranquillité de l'âme. Ça veut dire, il y a un professeur de philosophie, un grand professeur de philosophie qui a étudié ces courants-là, qui s'appelle Pierre Hadot, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La citadelle intérieure » pour décrire ça. En fait, se construire une citadelle intérieure imprenable, à l'intérieur de laquelle, en fait, on peut non pas annuler tous les bruits du monde, mais faire en sorte que ces bruits ne troublent plus la tranquillité de mon âme.
On a l'impression que c'est ce que vous avez tenté en vous extirpant du monde, Stéphanie Baudet, en partant pendant une vingtaine de jours dans cette cabane perdue dans les montagnes.
Oui, tout à fait. En fait, moi, c'était vraiment comment se retirer pour mieux revenir au monde. Et je crois que notamment, enfin, je suis très sensible à ce thème de la citadelle intérieure ou aux paroles de Sénèque. Parce que Sénèque, à la fois, il nous dit qu'il faut arriver à faire abstraction du bruit. Mais il dit aussi ailleurs, je crois, dans un texte, il n'y a pas de vertu à supporter ce que l'on ne ressent pas. Et je trouve que cette phrase est intéressante aussi parce qu'on n'est pas tous égaux, finalement, face aux stimulations, face au bruit. Je pense que vous pourrez en témoigner. Et on a tous des capacités différentes de filtrer. Donc certains vont pouvoir convertir avec tranquillité dans une foule absolue et s'isoler très facilement.
Ce que vous ne pouvez pas faire.
Pas du tout. Moi, je filtre très mal. On va dire ça comme ça.
Vous avez une hypersensibilité, en fait.
Donc, j'entends le bruit des fourchettes de la table d'à côté, j'entends la conversation et finalement, j'ai besoin d'une énergie folle pour arriver à me concentrer sur ce que dit la personne en face de moi, au-delà d'une conversation de quatre personnes.
Mais ce qui veut dire...
C'est embêtant.
Ce qui veut dire que cette expérience que vous avez menée en partant donc, toute seule dans cette cabane perdue dans la nature, c'était presque un besoin physique, voire vital pour vous,
Ah oui, j'étais vraiment malade du bruit. J'étais vraiment très fatiguée. Ça a été un moment, je pense qu'on peut, on peut qualifier ça de burn-out. Ça a eu des conséquences sur ma santé. J'ai fait parfois des crises de vertige il y a une dizaine d'années suite à des soirées comme ça, très bruyantes. Et je ne comprenais pas cette espèce d'effondrement physique qui je mettais vraiment beaucoup de temps à récupérer. Et en fait, après avoir consulté une psychologue, elle m'a expliqué qu'on était tous différents à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup aidée, ça m'a beaucoup rassurée. Et je me suis dit finalement, je vais essayer de favoriser un mode de vie qui est compatible avec la nature, mais sans pour autant m'identifier à mes limites. Parce que parfois, on peut aussi vraiment réduire sa vie et se rétrécir si on se sent plus capable, si on se muraille, si on crée une citadelle, pour le coup, une forteresse imprenable extérieure, on risque de se couper de ce qui fait la beauté de la vie, aussi des rencontres et de la magie.
Et alors, par exemple, est-ce que ça a été une épreuve de venir à Paris pour faire cette émission avec nous aujourd'hui? Vous n'avez pas le droit de me dire oui, mais quand même.
Non, mais c'est amusant parce qu'en fait, avec les années passant, je m'aperçois que j'aime les contrastes en fait dans la vie aussi, et je savoure ce moment. Moi je vis comme une ermite, mais donc ce moment aussi où je suis dans un train avec des gens, des enfants face à moi, et j'aime beaucoup regarder, observer la vie des personnes que je croise. Et en fait, arrivant de la campagne, je me sens beaucoup plus facilement disposée à observer et à être à l'écoute parfois que des Parisiens emmurés dans leur casque et leur téléphone. Et donc pour moi, au contraire, c'est quelque chose de très exotique et j'aime beaucoup.
On est des personnages exotiques pour Stéphane, j'aime beaucoup cette idée. Grégoire Bors, est-ce qu'il y a toujours eu autant de bruit dans notre société?
Il y a toujours eu du bruit dans les sociétés. Il ne faut pas non plus fantasmer un moment où il n'y avait aucun bruit dans la société. Je pense que si on revient 2 ou 3 siècles auparavant, il y avait évidemment du bruit, des bruits très différents.
Ouais.
Je pense que la question n'est pas qu'un bruit auditif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du bruit auditif, mais aussi nos environnements visuels sont saturés en fait, aussi d'informations. Et c'est ça la complexité pour nos cerveaux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel non seulement il y a beaucoup d'informations à traiter, mais en plus, ces informations sont poussées de plus en plus rapidement à nos sens. Et donc ça crée une double difficulté pour nos cerveaux humains. Et quand on entendait cet extrait sur la question finalement de comment prendre des bonnes décisions, c'est pas tant finalement de ne pas être saturé de bruit, c'est d'être saturé d'un bruit avec une vitesse et une temporalité qui nous oblige à prendre des décisions très rapides. Et ça, c'est le pire qu'on puisse imaginer pour nos cerveaux. Nos cerveaux, ils sont pas bons pour prendre des décisions très rapides. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où vous prenez des décisions rapides, vous allez vous en remettre à ce qu'on appelle nos heuristiques de pensée, c'est-à-dire notre pensée rapide, intuitive. Et alors, parfois, les intuitions, ça fonctionne, mais souvent, ça ne fonctionne pas dans un certain nombre de situations dans lesquelles, justement, il y a des paradoxes, des conflits entre différents types d'informations. Et c'est essentiellement ce qu'on voit parfois dans la décision publique. C'est-à-dire qu'on a des décideurs publics qui sont obligés de prendre des décisions très rapides et qui parfois convergent vers une certaine forme d'irrationalité dans leur prise de décision. Donc, du bruit, il y en a toujours eu. La grande différence, je pense que c'est la célérité de ce bruit, c'est la vitesse avec laquelle il faut traiter notre information.
Ça veut dire qu'on a aussi une charge mentale et cognitive à cause de ce monde si bruyant et où on est tout le temps stimulé en permanence, quoi.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un apprentissage.
Ouais.
C'est un apprentissage, finalement, de traiter cette information. Et d'où l'enjeu, effectivement, que dès le plus jeune âge, on apprenne avoir des temps qui sont des temps, alors je dirais sans bruit, encore une fois, nos mondes sont pleins de bruit. Mais par contre, des moments où on arrive à s'extraire, finalement, où on apprend progressivement à s'extraire de ce bruit environnant pour se finalement réengager dans notre bruit intérieur. C'est-à-dire, en gros, imaginer, penser, et ainsi de suite. Et ça, c'est un langage, c'est un apprentissage que fait l'enfant. Quand on parle du langage intérieur, c'est typiquement passer du bruit externe au bruit interne. C'est un espèce de paradoxe, mais on passe d'une information qui se dit à l'extérieur à une information qui se dit à soi-même. Et ça, c'est un moment extrêmement important du développement de l'enfant.
Je voudrais qu'on donne la parole à Carole qui vient de nous appeler au standard de France Inter et qui nous appelle de Lille. Bonjour Carole.
Bonjour.
Vous souffrez de cet excès de bruit, c'est ça?
Ah oui, en permanence. Ce bruit dans les magasins, c'est cette musique qu'on nous met dans les restaurants. On n'est pas venu pour écouter de la musique, ou alors on s'est trompé de salle.
Oui.
Et j'habite Lille, où vient de démarrer le Tour de France, et j'ai eu le bonheur de constater que ma rue était bloquée. C'est embêtant pour certains, mais pas pour moi. Et quel calme! Je me dis, ça se peut qu'il y ait ce calme-là dans la rue? Je n'avais pas remarqué qu'il y avait un tel bruit. Il a fallu du calme pour que je fasse la différence.
Et alors, comment vous faites pour essayer de moins souffrir de ce bruit? Vous avez des petits trucs ou pas?
J'ai des petits trucs. Ma fille a eu l'idée incroyable de m'offrir un casque anti-bruit et que je mets quelquefois pour lire, pour rester au calme, tranquillement.
Ben merci beaucoup de nous avoir appelés depuis Lille, où on n'entend même pas un petit bruit derrière vous. Merci beaucoup, merci beaucoup Carole. Grégoire Borst, en fait, on n'a pas précisé, mais quelles sont les conséquences en fait, de ce bruit omniprésent sur notre cerveau?
Alors ce qu'on sait, d'un point de vue épidémiologique, hein, on sait qu'effectivement l'exposition au bruit constitue une pollution d'une certaine manière pour nos organismes et que ça a des conséquences non négligeables, notamment sur notre santé mentale. C'est vrai que d'être dans des environnements dans lesquels on est extrêmement exposé au bruit, pour des gens qui ont déjà des vulnérabilités justement de développer des difficultés psychologiques, ça va entraîner, ou en tout cas ça va favoriser l'émergence de troubles psychologiques. D'où l'enjeu effectivement, et c'est ce que d'autres études montrent, que parfois, ce qui peut être une bonne façon de sortir de ces difficultés psychologiques, c'est justement le contact qu'on a avec la nature. Parce que précisément, on va diminuer un peu ce type de bruit qui sont les bruits très propres à nos sociétés modernes. Mais on voit bien que la difficulté, c'est que, on l'entendait dans ce que disait cette dame, c'est qu'en fait, on empile du bruit au bruit. C'est-à-dire la seule manière de s'extraire du bruit, c'est de rajouter un bruit en plus. Et donc là, il y a une espèce de paradoxe, c'est une course en avant d'une certaine manière. Et donc l'idée, c'est peut-être effectivement de retrouver des environnements un peu moins brillants, parce que vraiment, il y a un effet clair sur notre santé mentale.
Ah oui, Thibaut de Saint-Maurice, on a l'impression qu'on est dans une société de bavardage permanent, quoi. Il faut vraiment prendre la parole tout le temps, surtout, et on ne s'en sort pas. Tout se superpose, en fait.
Oui, alors, et c'est le paradoxe, effectivement, c'est qu'il y a en plus une démultiplication des dimensions et des couches de bruit. C'est-à-dire, il y a le bruit bruyant, il y a le bruit qui, en fait, pollue la concentration, parce que c'est une sollicitation, c'est une notification, c'est une conversation, etc. Donc il y a ce truc souvent décrit de forme d'accélération du monde et des sollicitations qui vont avec. Et le paradoxe, c'est que pour beaucoup aussi de l'autre côté, le silence est anxiogène. Le trop de calme, en fait, on ne sait pas très bien comment s'en sortir. Et que vivre dans ce tissu de conversation et de sollicitation donne aussi à beaucoup l'impression, entre guillemets, d'être vivant. C'est-à-dire que, et je pense que ça varie aussi beaucoup avec les âges. Une certaine jeunesse, par exemple, aime ces ambiances vraiment de très grande sollicitation de l'attention. En festival, il y a plein de scènes avec du bruit, on s'interpelle, etc. Et donc, c'est un apprentissage, distinguer, discriminer ce qui me fait du bien, ce qui me fait moins de bien ou ce qui peut me porter préjudice. Mais on a aussi autour de nous, je pense à un ami très précisément actuellement qui n'aime pas par exemple la campagne parce qu'il me dit mais c'est trop calme.
Mais oui, c'est trop calme. C'est ce que j'allais vous demander, Grégoire Borst. Il y a des gens qui ne veulent pas de ce silence, mais qui ne peuvent pas le supporter parce que ça les met face à leur anxiété, face à leur angoisse. C'est ça. C'est fréquent.
Alors, c'est tout à fait un des symptômes notamment associés à la dépression. Quand vous êtes dépressif, surtout ne pas faire de méditation. Oui. C'est-à-dire que c'est le pire que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des effets négatifs de s'engager dans la méditation quand on a des symptômes dépressifs, parce que ça va entraîner de la rumination. C'est-à-dire que c'est des gens, effectivement, qui vont penser pendant ces moments-là, et comme ils ont des pensées et un tropisme vers des pensées négatives, ils vont ruminer ces pensées négatives et ça va les faire aller encore plus mal. Et donc, effectivement, il y a tout cet enjeu-là. C'est-à-dire que c'est très beau de dire aux gens, mais reconnectez-vous avec vous-même, partez à la campagne, comme ça
c'est
vous pourrez.
Si évident.
Mais c'est pas si évident, et ça marche bien quand vous allez bien, d'une certaine manière. Parce qu'on peut se retrouver face à soi-même quand on va bien, et pouvoir gérer finalement ce flot de pensées qui nous permettent de réfléchir sur notre vie et sur la vie des autres et le monde dans lequel nous sommes. Mais quand on va pas bien, c'est vraiment la pire des situations. Et on parlait de la jeunesse. La jeunesse, c'est 30 à 40% des jeunes qui ont des symptômes dépressifs.
Ouais.
Donc c'est aussi, finalement, une partie de la population qui a besoin d'être en groupe. En plus, leur cerveau est créé finalement, ou en tout cas, non, pardon, est à une phase du développement dans laquelle les interactions sociales sont hyper importantes pour leur bien-être psychologique. Donc, c'est pas complètement surprenant qu'en fait, la jeunesse a besoin d'être dans des situations sociales dans lesquelles il y a beaucoup de bruit associé. Parce qu'en fait, être face à soi-même quand on est adolescent et qu'on va pas bien, c'est difficile.
C'est compliqué.
C'est très, très compliqué.
C'est compliqué. Et on comprend mieux encore votre cheminement intérieur, Stéphanie Bonnet. On sent qu'il faut avoir de l'expérience aussi et rechercher quelque chose de très précis. Quand on va s'isoler comme ça en montagne, on va continuer à en parler dans la suite de cette émission. N'hésitez pas à réagir, évidemment. Racontez-nous votre rapport au bruit et au silence. Un seul numéro, 01 45 24 7000. En attendant d'entendre votre voix, c'est celle de Mira qui enjolive l'antenne de France Inter.
Nas águas escuras eu mergulharei.
Nas águas escuras eu mergulharei.
Où vont les larmes que l'on garde? Où les larmes gardées? Depuis ce matin je regarde la tristesse couler. Je sens.
Larmes, titre magnifique de cette chanson de Mira, chanson choisie par Valentine Chedebois.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Aujourd'hui, on a un peu de son de la pluie.
Oui, alors.
Petite pluie.
Alors là, c'est surtout. La pluie s'est arrêtée.
C'est
ce qui tombe des arbres, en fait. Les arbres sont en train de s'égoutter, là. Alors si on tend l'oreille, est-ce qu'on entend d'autres choses? Il y a un avion qui est passé, mais ça c'est donc évidemment très récurrent dans cette partie de la France, comme dans beaucoup d'autres régions. Quelques petits cris très ténus.
Un petit peu derrière nous.
Oui, j'ai entendu une mésange, voilà, une mésange, des tout petits cris de contact là, de mésange noire, je pense. On arrive à entendre une tronçonneuse aussi, très très loin. L'empreinte humaine est vraiment omniprésente, hein, c'est-à-dire que en cherchant bien, on arrive toujours à trouver une trace de moteur quelque part, quoi. Si c'est pas un avion, c'est une tronçonneuse, ou c'est un quad de loin, ou une voiture. C'est rare d'avoir plus de 3 minutes consécutives sans un bruit de moteur. En journée, c'est très compliqué.
Marc Namblard, que vous venez d'entendre, est audio-naturaliste. Il était au micro d'Olivier Aymon dans le cadre de l'émission Interception, à réécouter sur l'application Radio France. Et si nous partions découvrir justement le monde bruyant de la nature avec nos invités Grégoire Borst, spécialiste en neurosciences, Thibaut de Saint-Maurice, philosophe, et Stéphanie Baudet, écrivaine et ancienne championne d'escalade. Stéphanie Baudet, ce bruit de tronçonneuse, il vous a longtemps agacé? Et vous êtes devenue plus tolérante, vous êtes devenue amie avec les tronçonneuses?
Non, je ne dirais pas amie. Mais en fait, je crois que quand on aime la nature, on se sent profondément meurtri, même en soi, comme s'il y avait un lien invisible qui reliait notre cœur à celui des arbres, celui des plantes. Et quand j'entends des débroussailleuses, alors même si je comprends qu'il faut prendre des précautions face au risque d'incendie, notamment en ce moment, dans certaines régions, mais par moments, le débroussaillage intensif, le manque de soins, la façon dont, vous savez, il y a des gyrobroyeurs, c'est des espèces de tracteurs armés d'une espèce de grande lame, vont comme ça meurtrir les haies, en fait, au bord des routes, sans soins, sans égard, c'est quelque chose qui me fait mal.
Ouais. Et alors, comment vous faites avec vos voisins?
J'ai eu la chance d'avoir des voisins merveilleux, d'une bienveillance. J'ai été idiote. En fait, j'ai mis 2 ans avant de m'ouvrir à eux de la souffrance que je ressentais quand leur jardinier, parce qu'ils passaient toutes les 3 semaines avec une équipe assez bruyante. Et en fait, je leur en ai parlé, mais ils m'ont dit, mais en fait, on va vous avertir. Et j'ai trouvé ça génial. Je me dis parfois, il suffit de communiquer avec ses proches, avec les gens qui nous entourent, plutôt que de se murer dans une crispation et une colère. Il suffit de communiquer pour que les choses se dénouent. Et je me suis rendu compte qu'eux aussi étaient sensibles au chant des oiseaux, à la valse des martinets le soir. Et j'ai trouvé ça très beau, voilà, leur geste envers moi, et je les remercie vraiment.
C'est ce que vous disiez en ce début d'émission, c'est-à-dire que cette recherche du silence que vous avez, cette recherche du calme, c'est pour vous, en tout cas, une expérience collective. C'est pas simplement vous, dans votre coin, à tenter une expérience individuelle.
C'est ça, je pense qu'on est tous en recherche d'harmonie et de beauté, mais chacun emprunte des voies différentes et ne sont pas forcément les mêmes. Certains vont avoir besoin de la musique, d'autres du silence, du chant des oiseaux. Et simplement, c'est comment mieux vivre ensemble avec nos besoins différents et comment cohabiter. Et évidemment, il y a des moments où c'est plus difficile en ville et autres, mais je pense vraiment que quand on essaie d'aller vers les autres, en fait, on se rend compte que les gens sont beaucoup plus bienveillant que ce qu'on imagine et plein de bonne volonté.
Je voudrais vous lire justement des messages des auditeurs et auditrices. Emeline qui nous dit « Je suis prof d'art plastique et depuis quelques temps je suis en arrêt pour soigner un cancer. J'ai déménagé à la campagne en pleine nature et je réalise encore plus à quel point le bruit peut être épuisant et combien le silence ou en tout cas un environnement apaisé est essentiel pour se réparer. » C'est ce que vous nous disiez, Grégoire Borst, juste avant que nous écoutions ce disque. Et Patrick nous dit, alors ça m'a fait sourire, pardon, « J'ai des acouphènes et pour me sentir mieux, j'écoute France Inter toute la journée. » À se demander si on n'a pas envie que toute la terre entière ait des acouphènes. Et puis on a un message aussi extrêmement intéressant de Clémence qui nous dit qu'elle est designeuse et plasticienne et elle voulait nous parler d'une carte des espaces calmes. C'est une carte qu'elle a développée avec l'Institut Bruit Paris et le pavillon de l'Arsenal. Et c'est une carte qui va répertorier tous les lieux à Paris dans ses alentours qui vont être les plus protégés de la pollution sonore, aérienne, ferroviaire et routière. On va mettre les coordonnées de tout cela évidemment sur la page de l'émission via l'application de France Inter. Grégoire Borst, l'OMS a placé le bruit comme deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe derrière la pollution de l'air. Mais je me suis posé une question, est-ce que les pouvoirs publics ont vraiment pris conscience de la gravité du problème, de ce monde bruyant ?
Alors, ce serait difficile de vous répondre. Parfois, je pense qu'il y a un constat. Je crois que les décideurs publics ont bien conscience que le bruit est une vraie complexité dans nos sociétés modernes. Il y a des municipalités qui ont vraiment pris la problématique à bras-le-corps. Je crois que quand on limite, par exemple, les voitures à Paris, c'est aussi une façon de lutter contre le bruit. Alors, on répondra, oui, mais alors, il y a les terrasses avec les gens qui restent très tard en terrasse. Je pense qu'effectivement, il y a une difficulté particulière, parce qu'on a, on a besoin d'espaces de socialisation, et en même temps, on a besoin de garantir une certaine forme de calme, notamment sur des moments, et pour revenir à la problématique de pourquoi, finalement, le bruit peut avoir des conséquences extrêmement négatives sur notre santé. Mais parce que, globalement, on est dans des sociétés dans lesquelles, quand on est saturé de bruit, on dort moins bien aussi.
Ouais.
Et on est dans une société dans laquelle on dort peu, on est en déficit chronique de sommeil. Et en fait, être en déficit chronique de sommeil, ça a des impacts pour notre santé physique et pour notre santé mentale. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut essayer de le comprendre. Mais je rappelle aussi que le bruit, ça n'est pas que ce qui arrive à nos oreilles, c'est aussi ce qui arrive à nos yeux, ce qui arrive à l'ensemble de nos sens. Et puis la dernière chose, c'est que nos systèmes perceptifs ont une particularité, c'est qu'ils s'habituent très vite. Et donc il y a une espèce de paradoxe. Si vous êtes citadin depuis votre naissance, comme c'est le cas, mon cas, j'ai toujours vécu à Paris. En fait, Paris, paradoxalement, le bruit parisien me gêne peu. C'est-à-dire que j'ai filtré d'une certaine manière une partie des fréquences et donc je peux à peu près être à Paris dans n'importe quel environnement et pas considérer qu'il y a tellement de bruit que ça. Par contre, effectivement, si je vais à la campagne et que tout d'un coup quelqu'un désherbe ou tronçonne, ça m'est insupportable. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors peut-être parce que j'ai une attente très forte en me disant je suis enfin à la campagne, il n'y aura pas de bruit. Et en fait, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'interférence humaine et les bruits produits par l'humain sont présents partout aujourd'hui dans nos sociétés.
Ce problème de sommeil, Thibaut de Saint-Maurice, vous en parliez au début de l'émission, parce que vous me disiez que c'est dans une nuit d'insomnie que vous avez trouvé le silence. Vous comprenez ce que vient de dire Grégoire ? Vous vous sentez concerné ?
Oui, alors c'est pas tellement le bruit qui me réveille, c'est pas vraiment lié à ça, mais effectivement, le fait d'être beaucoup réveillé la nuit me fait entendre des ambiances sonores nocturnes qui parfois peuvent être troublantes, et parfois, c'est pas forcément ce qui me réveille, mais c'est ce qui peut m'empêcher de m'endormir. Ce que je trouve vraiment aussi intéressant, c'est que en fait, on se rend compte qu'il y a un peu deux approches de cette question du bruit. On l'a évoqué au début de la conversation, cette capacité à faire le calme intérieur, à passer d'un calme extérieur à un calme extérieur. Donc, il y a une dimension, on pourrait dire, personnelle, existentielle, philosophique, psychologique d'éthique de vie, d'hygiène de vie personnelle. Et là, on se rend bien compte qu'il y a aussi une dimension qui est tout à fait sociale et politique du bruit. Et donc, à l'inverse, il y a aussi du coup, une dimension politique du calme.
Complètement.
C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans le calme, dans l'appel au calme, il y a aussi, peut se loger parfois, en tout cas, il faut le questionner, un appel à l'ordre, un rappel à l'ordre, et cette invitation ou cette injonction à être calme, à calmer les esprits, c'est des expressions qu'on entend beaucoup dans la conversation politique et sociale. on fait un appel au calme, on calme les esprits, etc. C'est aussi une certaine vision de l'ordre public, voire de l'autorité publique, et de façon un peu provocante. Je pourrais poser la question, qui est de dire quelle révolution ne s'est pas faite sans vacarme ?
Mais oui.
Comment aimer passionnément sans être agité de passion et de pensée permanente ? Et puis, qu'est-ce qu'une avant-garde artistique, par exemple, qui ne ferait pas un bruit tonitruant en surgissant sur la scène médiatique, etc. Donc, j'exagère volontairement un petit peu, mais c'est aussi peut-être de prendre la question un peu différemment. Il y a du bruit, il y a du calme. À qui profite le bruit ? À qui profite le calme ?
Et alors là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Stéphanie Baudet, vous en parlez, justement, de cette dimension politique du bruit.
Oui,
et vous prenez des manifestations dans le silence.
En vous écoutant, j'étais... Oui, c'est une tradition très française aussi, la révolution bruyante. Mais moi, je pensais, par exemple, à la marche du sel de Gandhi, à ces grandes marches pacifiques où les gens sont des milliers de pèlerins comme ça, acheminés pour dire non aux colons indiens, mais aux colons anglais, mais dans une espèce de calme et une paix qui est merveilleuse. Et c'est des gens comme Martin Luther King, ou qui ont été inspirés par Henri David Thoreau, le philosophe de l'étang de Walden, qui est aussi l'homme qui a écrit La désobéissance civile, et qui prônait de faire de sa vie une sorte de contre-frottement qui arrêterait le mouvement de la machine. Et je trouve que c'est très beau, on peut faire ça dans la lenteur, dans le calme. Simplement, c'est un peu différent, on n'a pas l'habitude. Mais je crois vraiment qu'on aurait... Parce que la colère aussi a tendance à vite retomber. L'indignation retombe rapidement, tandis que si on continuait à s'opposer en essayant d'aligner nos vies au maximum avec nos convictions et à refuser ce qui nous opprime, dans la mesure du possible, évidemment. Mais je pense que sur la durée, peut-être qu'on aurait plus d'endurance.
Et alors, je rebondis sur cette histoire de questions politiques, au fond, qui se posent derrière ce monde bruyant et ce silence que l'on recherche. Mais vous en parlez aussi dans votre récit, Stéphanie Baudet. On n'est pas égaux face aux désagréments provoqués par le bruit. Parce que là, on dit oui, c'est bien d'essayer de chercher des moments de calme, de respiration, etc. Mais comment tenir ce discours face à des gens qui habitent à proximité d'un périphérique, des gens qui ont des appartements qui sont mal insonorisés? C'est aussi ça, en ça, que c'est une question politique.
Oui, je pense. Parce que comment est-ce qu'on peut se sentir chez soi quand on ne peut pas ouvrir ses fenêtres, en fait, quand on habite près d'un périphérique? Et souvent, ce sont les gens les plus défavorisés qui, à la fois sur le lieu de travail et sur leur lieu de vie, subissent le bruit, en fait. Et donc, c'est vrai que d'essayer de rendre les villes plus calmes, d'essayer de brider le moteur d'une moto qui traverse la nuit à toute allure et puis qui vient réveiller les personnes qui vivent, c'est vraiment important de prendre des mesures concrètes et politiques pour essayer de rendre nos villes plus calmes et plus reposantes. Voilà.
Alors, vous allez l'entendre, la musique, elle est partout, tout le temps. Elle sature notre environnement sonore. Mais on va tenter une expérience. On va essayer de se concentrer sur la chanson qui suit, de rien faire d'autre, apprécier seulement la voix d'Andrea Laszlo de Simonet. Offrez-vous 3 minutes de musique, pas de bruit, juste 3 minutes pour respirer, ensemble avec nous. Vous écoutez France Inter et on est plutôt très bien.
ma il tempo non si ferma. Desiderata vita e trascurato amore, ma finché non si muore avremo sempre un cuore, e che stringa giuste nozze o che non sappia amare, vorrò sempre tornare al tempo della mia prima voglia, quando si godeva ancora. Mi abbandonai a vivere il fiore avaro della tua primavera, e ora sconvolto dal dolore, abbandonato nella mia sventura, se c'è qualcuno che non ha paura, io prego mi soccorra.
La note est par Andrea Laszlo de Simone.
Eva Rock.
Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres.
Grand bien vous fasse.
Dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. N'est-ce pas le silence qui détermine et qui fixe la saveur de l'amour ?
Sur France Inter.
Sacha Guitry évoquant le silence de l'amour, notre émission est sur le point de s'achever. Je vous vois tiquer Thibaut de Saint-Maurice.
Enfin, dans l'amour, le silence est aussi une grande source de malentendus et de frustration. Donc,
mais voilà. Des beaux silences en amour. Peut-être qu'on n'est pas obligé de tout verbaliser, non ?
Oui,
bon, d'accord.
Je ne m'avancerai
comme,
pas plus
comme
loin.
Vous voulez.
Disons que c'est bien aussi d'exprimer ce qu'on ressent.
Oui, on est d'accord. Partager. On est d'accord. Je voulais juste vous lire à propos de la musique un message d'Anthony, mais qui est tout à fait clair. Il nous dit que la musique ne doit son salut qu'au silence, car il sert à encadrer les notes. Et effectivement, sur nos partitions en solfège, on a les silences. Alors, on appelle ça des soupirs, mais les silences existent aussi, même en musique, évidemment. On parlait d'amour, on parlait de langage amoureux. Stéphanie Baudet, je vous regarde parce que je me suis demandé avec votre mari, quand vous partiez escalader, est-ce que vous parliez beaucoup ?
Alors, en fait, l'escalade, notamment celle que je pratique en grande voie, c'est-à-dire qu'on fait sur une grande paroi, on fractionne, si vous voulez, l'escalade en longueur. Et donc, c'est assez merveilleux parce qu'on est à la fois seul face au mur, face à la muraille sur le calcaire, en train de chercher ses petites prises, et donc dans une forme de silence intérieur qui est assez merveilleux, et qui ressemble à une forme de méditation en action. Et à la fois, on est dans le partage quand l'autre nous rejoint au relais, qu'on échange le matériel et qu'on continue à grimper.
Ça veut dire que vous êtes inventé un langage entre vous,
ça,
finalement.
Et puis maintenant, on a presque plus besoin de parler parce qu'en fait, simple fait de sentir la corde, le mouvement de la corde ralentir, le bruit, les petits bruits, on est sensible à certaines choses qui nous annoncent, tiens, ben, l'autre est arrivé au relais et on n'a plus besoin de crier pour se... Enfin, pas souvent, ça peut arriver, mais s'il y a des grenouilles dans les cordes.
Il y a un de vos chapitres qui m'a extrêmement ému. Vous y évoquez le décès de votre sœur, vous aviez 20 ans à cette époque-là, et vous parlez d'une autre forme de silence. Vous parlez des silences obscurs, insoutenables, violents, et je me suis demandé, est-ce qu'on peut supporter le silence de l'être aimé ? Est-ce que c'est possible ?
Je crois que c'est douloureux, en fait.
Ouais.
C'est l'absence, c'est le silence de l'absence, le silence de la personne qu'on croit chaque fois au moment du deuil croisé, qui habite, en fait, comme un fantôme, qui habite un intérieur, qui habite nos souvenirs. C'est très douloureux, mais en tout cas, moi, dans mon cas, ça, c'est bon. J'ai 49 ans, elle est décédée quand elle avait 15 ans, j'en avais 20. Donc, de nombreuses années se sont écoulées. Et aujourd'hui, c'est une sorte de présence plus douce,
ouais,
qui m'accompagne, mais je crois qu'aussi, j'aime tant le silence pour cette raison simple, qui permet aussi le recueillement. Se recueillir, penser aux personnes chères qui ne sont plus là, les grands-parents, un être aimé, qui ne sont plus là pour nous accompagner. Mais finalement, elles continuent à les faire vivre par la mémoire. Et je crois que le silence permet de faire provision d'émotions, de sensations et de continuer à faire vivre ceux qui ne sont plus.
Et je me suis demandé si à la fois ces souvenirs et ce travail d'écriture que vous faisiez participaient justement à ce silence que vous aimez tant. Que l'écriture aussi participe à tout ça.
Oui, bien sûr. Ben, l'écrire, c'est vraiment pour moi vivre deux fois. C'est augmenter la vie, en fait. C'est essayer de trouver le mot juste pour décrire une sensation. Et c'est pour ça que j'ai tant besoin aussi de silence quand j'écris. C'est qu'en fait, j'essaie vraiment de recueillir tout un éventail de perceptions,
ouais,
et d'émotions.
Ouais. Vous dites d'ailleurs, vous avez cette expression que j'aime beaucoup, le silence, cette chambre intérieure qui nous réunit. Et j'ai l'impression que pour vous, le silence est un espace. Parce que au même titre que la montagne, elle devient l'espace de ce silence. J'avais l'impression que vous le matérialisiez.
Oui, mais c'est vraiment ça. Et je crois que dans de nombreuses traditions mystiques, parce que j'ai fait une formation de yoga il y a quelques années, et on avait lu un texte des Upanishads, ça s'appelle la Chandogya Upanishad, qui est un texte fondateur des Védas, donc de la tradition indienne, et il parlait de la grotte du cœur. Et finalement, ça peut être à la fois, je pense que les stoïciens, la citadelle à l'intérieur, c'est peut-être ça, cette grotte du cœur que chacun porte en soi. Et quand on sent qu'on lui donne de l'espace, qu'on lui crée de l'espace, on peut l'imaginer chacun à sa façon comme un jardin qu'il faut cultiver, comme un lac paisible, ou parfois à tourmenter, mais en tout cas un espace qui peut retrouver de la paix. Moi, vraiment, je le sens comme ça peut être une montagne, ça peut être un paysage. Enfin, je crois que chacun peut trouver l'image qui lui convient, qu'il aime.
Grégoire Borst, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux auditeurs qui souffrent de bruit pour essayer d'atténuer cette douleur, j'allais dire?
Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Moi, je suis quand même très sensible à ce qu'on a dit sur la question des inégalités. C'est-à-dire que les inégalités sociales, elles viennent percuter cette problématique du bruit. Donc, une des choses auxquelles on peut réfléchir aussi, c'est aussi peut-être réapprendre à vivre ensemble. Parce que je crois qu'il y a une dimension aussi là-dessus de l'insupportable. De l'insupportable finalement, oui, de l'autre dans le bruit. Et je trouve que c'est de plus en plus fort dans nos sociétés. C'est-à-dire que quand on voit des adultes qui veulent aller dans les lieux no kids, des trains dans lesquels les gens ne veulent absolument pas qu'il y ait des bruits d'enfants, mais qui dans le même temps vont passer tout le trajet quasiment à parler sur leur téléphone portable, ce qui est, oui, insupportable pour les autres. Je crois qu'il y a une dimension aussi de l'acceptation du bruit de l'autre finalement, et donc de l'acceptation du vivre ensemble. Donc de réapprendre finalement à apprivoiser le bruit de l'autre, et peut-être en limitant les bruits des nouvelles technologies.
Mais on a eu un message de Anne qui nous dit qu'elle vit dans le centre-ville de Lorient, dans le Morbihan. Elle souffre beaucoup du bruit de la ville, hein, circulation, moto, rodéo nocturne, etc. Mais elle nous dit aussi que les gens également parlent de plus en plus fort et il n'y a plus de respect entre voisins. Ça participe aussi, ça, hein, le bruit ambiant qu'on a aussi. Ça, c'est parfois nos proches qui nous parlent un peu trop fort. J'aimerais qu'on finisse avec des petites questions. Alors, c'est parfois les petites questions les plus compliquées pour y répondre. Mais quelle est le son que vous aimez le plus, Thibaut de Saint-Maurice? Vous sauriez répondre à cette question?
C'est un peu cucu, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est
ma question ou votre réponse?
Non, ma réponse.
Ah, d'accord.
Non, c'est entendre mes enfants rire.
Ouais, le rire de vos enfants.
Ouais.
Ouais. Et vous, Grégoire Borst?
Le son que j'aime le plus, je pense que c'est le souffle de mon amoureuse.
Ouais.
Ah, c'est beau.
Et vous, Stéphanie Baudet?
Moi, c'est le chant du ruisseau.
Ah, bah c'est, oui,
parce que j'ai vraiment l'impression, quand on marche au fil de l'eau, que comme ça, toutes les ruminations, il y a tout qui coule et qui part avec. Et c'est très fort en moi, je me sens traversée par ce fluide.
Et alors, le son que vous détestez, Thibaut de Saint-Maurice?
Un traumatisme de plus de 20 ans de salle de classe, c'est craie,
oui,
qui gratte sur le tableau, parce qu'il y avait encore des tableaux avec des craies. Et donc ça, vraiment, la craie qui...
Ah oui, mais alors là, il faut que je me tourne vers le spécialiste, ouais, en neurosciences, Grégoire Borst. Pourquoi on a tous ce traumatisme de la craie qui grince? On est plusieurs à détester ce bruit-là.
Alors, oui, mais pas tous. C'est-à-dire, mmh, que pour certains, c'est strictement insupportable. Moi, c'est le polystyrène. C'est-à-dire qu'il y a un truc avec, ouais, le polystyrène, ça me rend dingue, mais ça me rend dingue, je veux dire, physiquement. Hein,
oui, c'est ça.
C'est insupportable. Mais je saurais pas dire, mais il y a effectivement parfois des associations comme ça entre différents types de sensations. Donc, ça crée une sensation auditive, mais qui renvoie finalement à une sensation physique. Et la craie, c'est exactement ça.
Mais
oui, bon, aussi, c'est parce que c'est dans un contexte qui n'est pas forcément qu'un contexte positif.
Ah, parce que vous pensez que c'est l'école?
Généralement, le prof qui cassait la craie quand il faisait ça, c'était pas celui avec lequel on avait la meilleure relation.
Et alors vous, le son que vous détestez, Grégoire Borst, c'est vraiment celui du polystyrène?
Ah, moi, c'est insupportable. C'est-à-dire que
vous pouvez même pas toucher,
je peux pas toucher, moi. Et si quelqu'un passe sa main sur le polystyrène, je sens l'association que ça produit.
Et vous, Stéphanie Baudet, on finit avec votre son que vous détestez.
Moi, c'est le bruit du rotophile. Le bruit du débroussailleur, en fait.
Ah oui, vraiment, définitivement.
Oui, vraiment, ça me demande une grande force.
On embrasse vos voisins, vraiment, très fort. Mais j'ai bien compris que ça se passait bien quand même,
oui,
quand même entre
très,
vous.
Très bien.
Merci en tout cas infiniment tous les trois pour ces petits bruits. On a l'habitude de terminer cette émission avec votre coup de cœur, c'est-à-dire comment on pourrait poursuivre la réflexion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire? Un film, une série, une lecture? Thibaut de Saint-Maurice?
Quand même, sur cette question, le côté philosophe y va, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, parce que il y a tout un ensemble de petits conseils, d'aphorismes, de pensées, donc très très intéressantes sur l'anticipation notamment. Il dit quand tu vas à la piscine, et ben représente-toi d'abord qu'il va y avoir du bruit, qu'il y aura et donc ne te plains pas de ça, donc c'est la racine du stoïcisme, mais c'est très très bien à lire, facile à lire, il y a pas de complexité.
On mettra les références sur la page de l'émission. Stéphanie Baudet,
Oui, moi, je pensais à un petit texte très court de Rosa Luxembourg, qui est une révolutionnaire donc, qui a été assassinée à Berlin en 1919 et qui a écrit des lettres de prison à une amie. Et je vais vous en lire juste un petit passage. Elle était capable de sourire, en tout cas, au milieu des ténèbres. Et je vous lis juste cette phrase qui m'a beaucoup émue. « Et la vie chante aussi dans le sable qui crisse sous les pas lents et lourds de la sentinelle quand on sait l'entendre. »
Merci beaucoup, ce sera la conclusion de cette émission. Merci infiniment. Dans un instant, vous retrouvez François-Régis Gauzry et l'équipe dont on va déguster, qui vous accompagne jusqu'à midi avec une émission consacrée à la fermentation.